Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous proposer ce podcast qui a pu voir le jour en collaboration avec Iron et Nike à l'occasion de la sortie de la Nike Invincible 3 et de la Sine Qua Non Run. La Sine Qua Non Run, c'est une course qui a vu le jour en 2018 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et plus globalement une association qui a la volonté de permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Dans cet épisode, enregistré en live de la boutique Iron, j'ai l'immense chance d'échanger avec Anne-Cécile Siofani, vice-championne olympique de rugby à 7 à Tokyo et élue meilleure joueuse du monde en 2021. Anne-Cécile a toujours baigné dans le sport, fille de deux Olympiens, l'activité physique et religion. Si elle a commencé par l'athlétisme, c'est bien le rugby et son aspect collectif qui sera une vraie révélation pour elle. Je vous assure qu'en écoutant cet épisode, vous vous sentirez plus léger et même déculpabilisé de ne pas toujours avoir envie de sortir de votre canapé. Anne-Cécile, c'est la bonne humeur incarnée et la personne qu'on voudrait très clairement dans notre équipe. Bonne écoute! Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Championne du Monde. Épisode qui, pour la deuxième fois après hier, est enregistré en live de la boutique Iron rue des Mathurins. Et je suis plus que ravie d'accueillir aujourd'hui Anne-Cécile Siofani de l'équipe de France de rugby à 7, entre autres. Je détaille un tout petit peu quand même son palmarès parce qu'il est quand même assez impressionnant. Vice-championne du monde en 2017, vice-championne olympique à Tokyo en 2021, élue meilleure joueuse du monde en 2021 aussi. C'est pas mal.
C'est cool, oui.
Merci beaucoup Anne-Cécile d'être avec moi aujourd'hui, avec nous aujourd'hui. Surtout que tu as un planning plutôt chargé hein, quand même. On est sur les 7 Series là en ce moment, tu reviens de Los Angeles. Elle m'a envoyé un petit message en me disant « J'espère que je ne serai pas trop...
» Je ne mettrai pas du nez.
Ça va ?
Non, ça va pour l'instant.
Bon, écoute, parfait. D'ailleurs, je me permets de le préciser aussi parce que tu t'illustres déjà sur les 7 Series avec 25 essais et un record. C'est un record sur une saison pour une Française. Donc, c'est vraiment assez incroyable. On applaudit, s'il vous plaît. Et ce n'est pas fini encore la saison.
Donc. Non, j'espère que c'est le début, oui.
Exactement. Alors... Anne-Cécile, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui, je le reprécise. On se rencontre à quelques jours de la Sine Qua Non Run. C'est une course qui est faite pour piétiner les violences sexistes et sexuelles. C'est également une association qui place le sport comme moteur pour changer des vies, notamment celles des femmes, en leur donnant confiance et en contribuant à ce qu'elles prennent leur place dans la société. Ma première question pour toi, est-ce qu'on peut dire que pour toi, le sport, il a toujours été présent dans ta vie, toujours été au centre de ta vie ?
Oui, complètement. Moi, j'ai grandi dans une famille de sportifs, hein, de grands champions et championnes. Donc oui, le sport m'a été pas imposé, mais ça a toujours pris une place importante dans ma vie. J'ai été éduquée dans le sport et j'ai découvert plutôt qu'on pouvait vivre sans le sport plutôt que l'inverse, qu'on pouvait vivre avec le sport. J'ai plutôt découvert une vie sans sport à travers mes amis ou mon entourage qui ne pratiquaient pas de sport du tout. Donc j'ai découvert qu'on pouvait vivre sans le sport alors que moi, j'ai grandi et baigné dans cet univers-là.
Et justement, c'est pas trop compliqué aussi de alors pas se voir imposer, c'est ce que tu disais, mais d'avoir l'obligation, ou en tout cas de suivre la voie. Tes deux parents ont été sportifs de haut niveau. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi ou ça a été finalement normal ?
Ça a été normal. Ce qui a été compliqué, c'est quand j'ai compris que je pouvais faire autre chose, que j'ai voulu faire autre chose et que là, je me suis vraiment sentie un peu prise au piège de ma vie, clairement, de sportive. Donc, c'est là où ça a été compliqué, où j'ai compris qu'on pouvait sortir avec les copines, qu'on pouvait faire autre chose de ses mercredis après-midi, de ses week-ends, plutôt que de courir les compétitions à droite, à gauche. Mais c'est un choix que j'ai fait aussi de suivre cette voie-là. Aujourd'hui, bien sûr, je le regrette pas, mais c'est vrai que finalement, ça a fait que j'ai pas eu une enfance classique, normale, voilà, exactement. Mais je le regrette absolument pas, et bien au contraire d'ailleurs, je remercie mes parents de m'avoir imposé aussi un petit peu cette rigueur et ces valeurs que nous inculque le sport.
Justement, tu dirais que le sport a forgé aussi ta personnalité ?
Oui, complètement. Complètement, complètement. Et j'ai eu la chance de pratiquer deux sports à haut niveau. Deux sports complètement différents, un individuel, un collectif. Deux sports avec des valeurs aussi qui sont complètement différentes, mais qui se rejoignent aussi par moments. Donc oui, ça a complètement forgé ma personnalité. Ça continue de la forger. Déjà parce que je prends de l'âge aussi, mais parce que je vois les choses différemment et on apprend toujours de la discipline qu'on pratique en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction des compétitions qu'on a la chance de pratiquer, peu importe le niveau. Donc ça continue de me forger, oui.
Tu me fais une transition parfaite parce que tu parlais des deux sports que tu as pratiqués et que tu pratiques à haut niveau. Tu as commencé, comme tes parents, par l'athlétisme, l'heptathlon, qui est une discipline individuelle. Après, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est finalement peut-être aussi une des disciplines les plus d'équipe et collective de l'athlétisme. Et après, assez tardivement, finalement, vers 18 ans, je crois, tu as commencé le rugby à 7. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une continuité presque entre l'heptathlon et le rugby, où ça a vraiment créé une rupture ?
Ça a créé une rupture, pas franche la rupture, parce que même moi j'ai eu du mal un petit peu à accepter ce nouveau statut de passer d'athlète à rugby woman, de passer d'un sport individuel à un sport collectif. Voilà, ça a été une rupture qui s'est faite progressivement, parce que pendant un moment aussi j'ai continué à faire les deux, je voulais pas lâcher l'athlète, je me suis accrochée, j'avais des semaines de dingue, mais je voulais absolument
de faire les deux comme ça en même temps.
Et bien alors oui, mais maintenant oui, je me demande comment j'ai fait, mais je faisais plus d'heptathlon vers la fin, je m'étais centrée surtout sur le disque, c'était la discipline de ma mère. Donc je m'étais centrée sur le disque et sur le rugby, donc j'arrivais encore un petit peu à combiner les deux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire un choix et de par le fait que ce soit deux sports complètement opposés, y a eu quand même un changement assez brutal finalement, parce que faut tout réapprendre. Par contre, ce qui a été vachement important, c'est que l'athlée est un sport très très formateur, dans le développement physique, dans le développement des capacités aussi athlétiques, et ça m'a énormément servi pour le rugby.
On l'a dit tout à l'heure, c'était aussi à la discipline de tes parents. Est-ce que finalement aussi, ça a été une sorte d'envol pour toi de dire « bon, bah, j'ai suivi la famille et maintenant, allez, ça y est, je trace mon propre chemin ».
Ouais, 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 complètement. Ça a été ça pendant toutes mes années d'athlète. Du coup, j'étais un peu sur les terrains. J'étais la fille d'eux, beaucoup, beaucoup la fille d'eux. Donc, quand je faisais des bonnes performances, c'était « ah bah, c'est normal, c'est la fille d'eux ». Et en fait, tout le travail que je m'étais tapé en amont, il était effacé par le fait que je devais réussir parce que j'avais des gènes de champion. Et voilà, ça a été ça pendant quasiment toutes mes années d'athlète. Et ouais, au rugby, je crois que je pense que le déclencheur, ça a été le fait que mon père se marrait un peu quand je lui disais que je faisais du rugby. Il disait « oh là, mais le rugby ».
Okay.
Ouais, il se marrait un peu. Bah, je pense qu'il prenait pas ça à la légère, parce que quand j'ai commencé, c'était pas forcément, c'était pas hyper développé, c'était pas pro. Enfin, on pouvait pas du tout en vivre comme j'en vis aujourd'hui. Donc, je pense qu'il en rigolait un petit peu. Il devait pas penser non plus que j'étais capable de pouvoir lâcher l'athlète comme ça pour un sport inédit et puis qui collait pas forcément à une image féminine. Donc il en a rigolé un petit peu et je me demande si c'est pas ce que j'ai pris comme un défi en mode tu rigoles, regarde ce que je peux faire sans toi aussi, parce que du coup j'avais beaucoup j'ai toujours été entraînée par mon père, sauf sur les dernières années, mais voilà, mon père était toujours présent dans ma vie de sportive. Et je pense que le fait qu'il se soit un petit peu moqué gentiment, hein, voilà, vraiment sans méchanceté aucune, mais gentiment, il s'est moqué. Et je me suis dit, mais attends, regarde, regarde. Heureusement que je ne me suis pas trompée.
tu lui as bien montré que tu avais raison, en tout cas.
Ouais, heureusement, parce que je pense qu'il en rigolerait encore aujourd'hui.
c'est hyper intéressant, tu disais aussi, parce que c'était un sport pas vraiment féminin. C'est quelque chose que ton père, par exemple, a pu te dire en disant que c'est pas vraiment un sport adapté ou ce genre de choses ?
Non. Ça, par contre, j'ai vraiment eu de la chance. Je pense qu'ils avaient plus peur du rugby en lui-même, de ce que...
La blessure.
Ouais, voilà, exactement, de la blessure, de la violence qu'on peut voir aussi, enfin, qu'on a l'impression que ça peut être très violent à la télé. Et moi aussi, d'ailleurs, la première fois que j'ai fait un match de rugby, je me suis dit,
Pourquoi ?
Mais pourquoi vous faites ça ? Enfin, arrêtez ! Enfin, voilà, moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là. Et en fait, non, ils ont été... Ils ont été assez cool là-dessus parce que même s'ils étaient vachement réticents et qu'ils avaient peur pour moi, il n'y a jamais eu de « mais c'est pas un sport de fille, c'est pas du tout féminin ». Il n'y a jamais eu de réflexion comme celle-ci. C'était surtout, je pense, plus dégoûté que je ne perf pas dans l'athlée plutôt que je passe à un sport comme le rugby.
Et du coup, pourquoi le rugby à 7 ? Parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent le parcours, on va dire, classique, c'est commencer par le rugby à 15 et après certaines soit font les deux, d'ailleurs hein, c'est le cas de plusieurs de tes coéquipières, soit effectivement on passe du 15 au 7. Toi, tu as directement commencé par le 7.
J'ai commencé à la fac parce que c'est là que vraiment le rugby est apparu pour moi, donc j'ai commencé à la fac. Et à la fac, on commence d'abord, il y a une saison sur demi-terrain, je crois qu'on est 8 ou 9, j'avoue que je n'ai plus le nombre en tête, sur demi-terrain. Et puis quand on passe sur la deuxième partie de saison, c'est du 7 contre 7. Donc c'est là que j'ai découvert le 7. J'ai commencé en universitaire, j'ai fait l'équipe de France universitaire aussi à ce moment-là. Et quand j'ai basculé en club, donc quand j'ai vraiment lâché mon statut d'athlète, j'ai basculé en club. Et là, c'était du 15. Donc il n'y a pas de club de rugby à 7, pas encore en tout cas, j'espère que ça viendra. Mais il n'y a pas de club de rugby à 7, donc je suis passée par le 7 à l'université avant d'atterrir en 15 en club et de basculer sur le 7 en équipe de France.
Et hyper rapidement, je crois, au bout d'un an directement, tu arrives en équipe de France.
Alors au bout de 6 mois, j'ai été convoquée...
Pardon ?
Non. Au bout de 6 mois, j'ai eu la chance d'être convoquée en équipe pour un rassemblement moins de 20 ans. Il y avait à ce moment-là des échanges entre la France et l'Angleterre où il y avait des matchs amicaux. Donc j'ai fait mon premier stage en équipe de France à ce moment-là. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée de par ma...
jeunesse.
Oui, exactement. Et puis même, ça faisait 6 mois que je faisais du rugby. Voilà, ma jeunesse dans le rugby, ouais. Exactement. Donc j'ai eu la chance de quand même connaître le haut niveau assez rapidement au rugby. Et c'est vrai qu'au bout de... Je crois que c'était... Au bout de 4 ou 5 ans de rugby, ouais, j'ai signé mon premier contrat.
Tu dis, j'ai lu dans plusieurs interviews que tu disais que la découverte du rugby, ça avait été une révélation pour toi. C'est-à-dire ?
Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, ça a été une redécouverte parce que j'avais l'impression d'être complète en athlée parce que j'avais l'impression d'être née pour ça. Moi, mon rêve, j'avais l'impression que mon rêve, en tout cas, c'était de faire les Jeux, mais de courir sur une piste d'athlée remplie. Moi, ça me donne des frissons quand je regarde l'athlée. J'adore ça, je trouve ça énorme. Et c'est ce que je voulais vivre quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand je suis arrivée au rugby, je pense que le premier électrochoc, ça a été quand je suis rentrée dans un vestiaire, parce que j'ai mis du temps à me rendre compte que je voulais faire du rugby. Moi, j'arrivais 2 minutes avant le début de l'entraînement, je posais mes affaires sur le côté, je mettais les crampons, je faisais l'entraînement et je repartais. J'ai pas directement été vraiment rugby woman. Et en fait, quand j'ai commencé à apprécier réellement les filles avec qui je m'entraînais, que j'ai commencé à m'y intéresser réellement, j'ai pris un peu plus de temps, donc j'arrivais dans le vestiaire. Et en fait, dans le vestiaire, c'est un monde, quoi. C'est un monde. Tu redécouvres les filles, en fait, dans le vestiaire. Sur le terrain, tu n'as pas forcément le temps d'échanger sur ce que tu as fait 2 heures avant, sur ce que tu dois faire juste après, sur ta vie en général. Et en fait, quand tu arrives dans le vestiaire, que tu te changes sans aucune gêne, que les filles te parlent en brassière, en sous-vêtements et tout, et sans aucune gêne, sans aucun jugement sur ton corps, sur qui tu es, sur... Moi, je suis arrivée là, je me suis dit, mais waouh, elles n'ont pas honte. Moi, je me cachais un peu. Et puis, en fait, non, pas du tout. Et puis, du coup, c'est voilà, tu rentres dans une proximité assez rapidement. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une liberté totale, sans aucune gêne. Enfin, j'ai découvert ça, j'ai fait waouh, mais c'est là que je veux être, quoi. J'ai vraiment adoré.
Est-ce que ça t'a fait apprendre de nouvelles choses aussi sur toi-même ?
Oui, je me suis vraiment redécouverte en fait. Totalement, j'ai découvert une autre facette de moi, une facette collective, vraiment collective. Et au début, ça a été un peu compliqué parce que moi, en athlète, j'avais un entraîneur qui gère deux ou trois athlètes. On n'est vraiment pas beaucoup par groupe d'entraînement, pardon, en tout cas quand moi je m'y entraînais. Et du coup, l'entraîneur a le temps vraiment pour chaque athlète. Donc, t'es un peu chouchouté par le coach, quoi. Et en fait, j'arrive sur le terrain de rugby, on est 30 gonzesses, il y a un coach ou deux pour tout ce collectif. Et moi, j'avais 1000 questions à poser et personne pour y répondre, quoi. Et je me suis dit, mais attends, je suis là, j'existe, quoi. Et je me suis retrouvée un petit peu seule et à vouloir le coach juste pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi il prend pas le temps pour moi ? Et j'avais l'impression d'être un peu égoïste ou égocentrique.
Ce à quoi tu avais été habituée.
Voilà, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte rapidement que fallait partager. Fallait partager le coach. Fallait partager les postes parce que quand tu couvres un poste, tu n'es pas seule sur ce poste-là. Donc, il faut partager. Même avant, après, il y a des temps d'échange aussi. Il faut réussir à créer des liens. Je ne pensais pas pouvoir m'ouvrir aussi facilement à des inconnus. Mais ces inconnus sont très rapidement devenus comme une deuxième famille parce que tu passes tellement de temps avec elles que ça devient comme une deuxième famille. Donc, j'ai découvert l'esprit d'équipe, plein de facettes que j'aurais pas soupçonnées chez moi.
C'est quelque chose qui s'apprend ou c'est venu naturellement aussi cet esprit d'équipe parce qu'on peut se dire, tu dis, waouh, j'ai été emportée par ça dans les vestiaires, c'était incroyable, c'était une ambiance de fou et tout. Mais finalement, est-ce que aussi avoir l'esprit d'équipe, ça s'apprend quand on n'a pas eu l'habitude au début de sa carrière?
Je pense que ça s'apprend. Mais dans tous les cas, t'es un minimum obligé de l'avoir parce que quand tu comprends que les gens qui t'entourent sur le terrain sont là pour le même objectif que toi, t'es un minimum obligé de l'avoir. T'es pas obligé d'être hyper collectif, à passer tout ton temps avec le collectif, à tout donner pour le collectif, à sacrifier des parties de ta vie pour le collectif. Mais à partir du moment où tu comprends que les gens qui sont là sur le terrain avec toi se battent pour la même chose que toi, c'est que t'as un minimum d'esprit collectif. Donc, je pense que ça dépend aussi des caractères, ça dépend aussi de tes ambitions dans la pratique. Mais oui, je pense que ça s'apprend et que ça se comprend aussi, l'esprit collectif.
Et pour rester sur cet aspect collectif, je vais faire un parallèle avec la Sine Qua Non aussi, qui organise des runs en collectif, des tournois ou en tout cas des entraînements de foot sur des city stades. Et l'idée, justement, c'est aussi de pouvoir s'entraider et de le faire en commun. Est-ce que toi, cet aspect collectif t'a aussi permis de prendre peut-être plus confiance en toi et je sais pas, d'assumer peut-être des choses que tu n'assumais pas avant, ou en tout cas de prendre confiance en toi, de prendre encore plus de ta place.
Ouais, complètement. Je suis arrivée dans un collectif assez timide, assez réservé, et en fait quand tu apprends à connaître les filles, donc là c'était soit à 15 dans mon premier club formateur ou avec l'équipe de France, quand il y a une certaine proximité qui se crée, on est amené à se taquiner un petit peu, on est amené aussi à se connaître par cœur. Donc, en fait, les filles vont connaître un petit peu tes défauts ou savoir les choses qui t'embêtent un petit peu. Donc, elles vont te titiller, tu vas commencer à t'énerver, puis finalement, tu vas accepter. Donc, tu te découvres un peu susceptible, puis finalement, tu finis par accepter. Enfin, voilà, c'est... t'évolues un petit peu dedans et tu redécouvres des facettes de toi où tu es obligé d'évoluer, en tout cas.
Est-ce que cet aspect aussi sport de contact où tu es obligé d'être présente, je veux dire physiquement, faut y aller, quoi, faut rentrer dedans, sans mauvais jeu de mots, mais est-ce que ça aussi ça a été quelque chose qui a pu être important ou game changer, toi, psychologiquement dans ta vie, on va dire, dans ta vie de tous les jours, finalement?
Un petit peu, ouais, quand même. Quand même. Souvent, je minimise un peu sur. Dans la vie de tous les jours, je me dis, mais attends, mais tu te prends des nanas de qui font 10 queues de plus que toi dans la tête et t'as peur de ça. Je me challenge un petit peu à minimiser un petit peu. Mais oui, le fait de comment dire, d'évoluer, en tout cas sur le plan affectif, parce que tu te fonds dans un collectif, donc tu es obligé de. d'adapter un petit peu ton comportement. Et comme je le disais, le fait d'être taquiné ou d'être titillé sur deux, trois points, t'apprends à grandir, à gérer tes émotions différemment et à t'imposer aussi, à savoir taper du poing, parce que c'est pas parce que t'es dans un collectif que tu dois aussi t'effacer. Donc, il faut apprendre à faire sa place. Et ça, c'est tout un processus qui se fait quand t'es bien accompagné, quand t'es bien entouré et surtout quand t'es à l'aise avec les gens avec qui t'es. Et c'est un caractère que tu peux aussi transposer dans la vie de tous les jours. Et je pense aujourd'hui, en tout cas, que, enfin, j'en suis persuadée que le rugby et que le caractère que j'ai réussi à développer au sein du groupe m'aident énormément à prendre confiance en moi, surtout dans la vie de tous les jours.
Est-ce que l'aspect mental aussi est différent au sein du collectif ? Est-ce que ça s'appréhende différemment ?
Oui, je pense, hein, parce qu'il y a énormément de choses à gérer, surtout quand tu fais du... Enfin, même pas quand tu fais du haut niveau, mais quand tu fais, comme tu dis, un sport collectif, t'es jamais seul. Et il faut prendre en compte aussi les autres. Et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que bah, tu te dis, est-ce que c'est à toi de t'adapter ou est-ce que c'est à elle de progresser ? Enfin, c'est là où l'échange, il est hyper important aussi et la communication est hyper importante. Tu vas me dire un truc qui ne va pas me plaire, soit je me braque et on en reste là et puis du coup, il y a toujours cet abcès, soit moi, je prends l'initiative de te dire, bon, bah, écoute, ça ne m'a pas plu, qu'est-ce qu'on fait ?
Parlons-en.
Exactement. Et c'est la base de beaucoup de choses, la communication, et c'est la base d'un collectif sain.
Tu trouves que tu es une meilleure communicante maintenant que tu fais du rugby, justement ?
Oui, je me force parce que je trouve ça trop important. On a eu pas mal de hauts et de bas aussi dans notre collectif. On a eu la chance de vivre des compétitions très importantes qu'il a fallu appréhender en amont aussi. On est toutes très différentes les unes les autres. Il y en a qui vont avoir un peu plus de mal à s'ouvrir, un peu plus de mal à se libérer. Et comme je le disais, quand on a un objectif commun, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se supporte, il faut qu'on s'épaule, il faut qu'on, voilà, il faut qu'on s'élève tout ensemble. Et ça va au-delà du terrain parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que le corps reflète énormément l'esprit. Et quand l'esprit n'est pas tranquille, le corps te le fait comprendre. Et j'ai appris énormément à prendre soin de mes coéquipières. Quand il y en a une qui est en baisse de forme, bah j'essaye en tout cas de prendre le temps d'aller la voir, de discuter avec elle. Si ce n'est pas avec moi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, le temps de lui faire remarquer que j'ai remarqué qu'elle ne va pas bien et que si elle a besoin, je suis là.
Ça, c'est...
Toutes les, enfin, moi ou une autre. Enfin, voilà, si je prends l'initiative en tout cas d'aller voir ma coéquipière, c'est pour qu'elle comprenne. Que...
Effectivement, on parle de collectif, mais c'est vrai que tu n'es jamais seule en fait aussi, voilà, dans ta performance, dans ton sport et que tu peux compter aussi sur les autres.
Exactement.
Quand on parle de collectif, on ne peut pas parler non plus que de la notion de communication interpersonnelle, c'est-à-dire les interactions hein, globalement, qui est la base de toute sociabilisation et qui a une importance primordiale, principalement aussi à l'enfance hein, et à l'adolescence. Est-ce que pour toi, la pratique d'un sport dès le plus jeune âge peut être game changer aussi dans cette sociabilisation et plus largement dans le fait de prendre sa place dans la société aussi plus tard, quoi ?
Ouais, je pense. Je pense clairement. Après, l'important, voilà, ça va être de trouver un sport qui plaît, qui plaît, voilà, complètement, et surtout un environnement sain, parce que on a beau aimer la pratique, si on n'aime pas ses coéquipiers ou si on a un problème avec l'entraîneur, effectivement, c'est pas non plus forcément très très sain. Mais je pense que oui, c'est mon avis, voilà, personnel. Pour avoir fait du sport toute ma vie, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles dès mon plus jeune âge. Et à l'inverse, moi j'ai une autre petite sœur qui elle n'est pas du tout dans le sport et je le vois, je vois qu'elle est pas dans le sport parce qu'elle a un manque de confiance en elle qui est assez important. Elle a un manque de communication aussi qui est assez importante. Voilà, elle a une fermeture au monde extérieur que je trouve dommage et que forcément je compare, mais que je ne pense pas avoir eu quand j'étais plus jeune parce que justement j'ai eu une pratique du.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
sport vraiment j'ai pratiqué beaucoup de sports, mais l'athlétisme m'a énormément ouvert parce que du coup, tu rencontres des jeunes de ton âge, des jeunes un peu plus âgés, et tu as un échange tout le temps constant, ou en tout cas, tu as un modèle de réussite, ou tu as quelque chose qui te tire en tout cas vers le haut.
Est-ce que tu dis, c'est vrai que tu trouves ça dommage et que c'est important, est-ce que tu penses aussi qu'il est primordial d'avoir des modèles, tu disais justement le mot modèle, d'avoir des modèles, d'avoir quelqu'un qui peut te donner envie aussi de faire du sport, quelqu'un à qui tu ressembles ou à qui tu as envie de ressembler? Ça, c'est quelque chose qui est important et que tu as envie d'incarner aussi peut-être?
C'est dur de... J'arrive pas trop à me dire que j'aimerais bien incarner ça, mais si je peux en tout cas être un modèle pour une personne, ce sera avec plaisir parce que je sais ce que le sport m'a apporté. Donc si oui je peux être un modèle, bien sûr, avec grand plaisir. Moi j'ai eu des modèles, des hommes, des femmes, beaucoup dans l'athlète, puisque c'est un monde dans lequel j'ai énormément baigné. Mais ouais, je trouve que c'est sympa, c'est chouette. Tu veux toujours ressembler à quelqu'un. Donc quand c'est une personne qui excelle, forcément, tu idolâtres aussi l'excellence et ça te pousse à te dépasser.
Aussi sans forcément incarner, mais en tout cas partager. Oui. Ça, je crois que ça te tient vraiment aussi à cœur. Comment tu mets ça en place? Comment tu partages ton expérience, justement?
Mais ça va être à travers ce type d'événement. Bonjour. Clairement, voilà. J'espère que ça vous intéresse. Mais ça va être clairement à travers ce type d'événement où tu touches peut-être pas tout le monde, mais la partie que tu vas toucher va peut-être communiquer à d'autres personnes, à son entourage, et ça va faire un petit effet boule de neige, donc un événement, deux événements, trois événements. Voilà, c'est beaucoup à travers ce genre d'événement. J'ai eu la chance de participer également à un événement qui s'appelle Golden Blocks, où c'est Ladi Doucouré notamment qui gère cet asso-là. Et je trouve ça super chouette comme principe, on va dire, où tu te déplaces de ville en ville avec des invités sportifs. Et là, tu vas à la rencontre de différents jeunes. Tu as la chance d'échanger, même si ce n'est pas avec tous les jeunes individuellement, mais tu as la chance d'échanger. Les jeunes te voient aussi, donc ils savent que c'est possible. C'est à travers ce genre de moment qu'on peut partager, à travers aussi aujourd'hui les réseaux sociaux. Beaucoup, j'essaie de partager un maximum mon quotidien pour qu'on se rende compte de ce que c'est. J'essaie d'être authentique et vrai, surtout de montrer tous les côtés donc qui sont pas forcément toujours positifs.
Oui, l'aspect victoire, ouais, voilà, exactement. Tout va bien, ouais.
Exactement, il y a toujours des bons et des moins bons côtés, mais d'assumer ce choix d'avoir choisi cette vie-là et de le partager pour montrer que de un, c'est possible, de deux, c'est une chance aussi qu'on se rende compte qu'on a vraiment de la chance de pouvoir vivre du rugby et d'essayer de donner envie à tous ceux qui regardent.
C'est aussi une volonté de presque redonner au sport ce qui t'a donné.
Ouais, complètement. C'est complètement ça. Je suis tellement fière et heureuse de ce que je vis aujourd'hui, et je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'est offert aujourd'hui, que j'ai envie que ça se développe encore plus dans d'autres disciplines, que ça commence plus jeune. Moi, je pense que j'ai vraiment eu de la chance parce que je suis arrivée à un moment où ça commençait. Donc, c'est-à-dire qu'à 18 ans, c'était encore possible. Quand moi j'avais du temps, c'était encore possible. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les jeunes sont de plus en plus investis, beaucoup plus jeunes, mais les moyens, ne suivent pas forcément. Donc j'espère que ce sont des choses qui vont se mettre en place rapidement et que bientôt, il y aura plein de filles qui postuleront pour le rugby à 7 ou pour d'autres disciplines. Mais j'espère que le rugby, le sport féminin en tout cas... Le rugby, oui.
Le rugby aussi, bien aussi. Évidemment.
Mais voilà, j'espère que le sport féminin n'a pas fini de glow up, comme on dit. En tout cas, c'est bien parti.
C'est vrai que c'est une question que je pose fréquemment dans mes podcasts à mes invités, mais tu sens qu'il y a une sorte d'effervescence, qu'il y a un peu quelque chose qui crépite et qu'on va vers le mieux, vers une meilleure visibilisation, vers une meilleure prise en compte aussi des sportives féminines.
Oui, complètement. Mais j'ai eu la chance de voir aussi d'où ça partait. Les filles avec qui j'ai pu jouer avec des filles qui sont à la base de la professionnalisation, si tu veux dire professionnalisation du rugby, donc elles qui sont vraiment battues pour instaurer des bases solides en tout cas. Donc j'ai vu d'où nous on est parti, et je vois là où on en est aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu une progression énorme, et je vois jusqu'où on peut aller et ça donne envie de se battre pour atteindre tous ces objectifs-là.
La route est encore longue,
oui.
Mais elle est belle.
Ouais, j'en suis sûre. Ouais, exactement.
On le disait aussi tout à l'heure que c'était important pour toi et important globalement de pratiquer une activité physique dès le plus jeune âge. Parfois, malheureusement, c'est pas forcément toujours aussi évident, hein, pour plein de raisons, des raisons culturelles, socioculturelles, etc. Quel est le message, toi aussi, que tu as envie de passer peut-être aux jeunes filles, et pas qu'aux jeunes filles d'ailleurs, hein, aux femmes peut-être plus âgées, aux garçons aussi également, qui écoutent le podcast, qui aimeraient peut-être se mettre au rugby, qui n'osent pas, ou à la course à pied, qui n'osent pas non plus pour telle ou telle raison. Quels sont les conseils, si conseils il y a, que tu pourrais leur donner ?
Mais déjà, de ne pas se mettre la pression et de ne pas partir sur un objectif de performance, je pense que c'est déjà important. Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment des ambitions de chacun et de chacune, mais d'être à l'aise avec la pratique qu'on choisit. Aujourd'hui, il y a tellement de méthodes possibles. On peut commencer tranquillement à la maison par des vidéos. On peut commencer, comme on l'a vu sur la campagne publicitaire pour la course, on peut commencer en groupe aussi.
Ça fait, ouais.
Voilà, amener une copine, comme on me l'a dit juste avant, amener une copine à son club. Voilà, ne pas y aller seule, pourquoi pas au début, et voilà, ne surtout pas se mettre de pression, commencer au niveau où on veut, au rythme auquel on veut surtout, et se mettre une rigueur plus tard si nécessaire, mais déjà prendre du plaisir à faire du sport et être à l'aise avec ça surtout.
Les freins psychologiques aussi, parce qu'il y en a beaucoup,
ouais.
De se dire de toute façon ça sert à rien, je serai nulle quoi qu'il arrive. Des personnes aussi qui commencent à courir 2 km, qui sont épuisées au bout de 2 km, ce qui est normal hein, quand on commence la course à pied, juste voilà, mais qui du coup lâchent complètement. Comment se motiver aussi, quel mindset avoir?
C'est vrai que là c'est aussi un peu délicat, parce que ça va dépendre beaucoup de chacun. Peut-être essayer de se mettre des petits objectifs par jour, donc valider ses objectifs. Par exemple, si on veut courir un 2 km, se mettre 500 mètres par jour pendant tant de temps, et puis une fois qu'on est à l'aise avec les 500 mètres, on bascule un petit peu plus. Voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est ne pas se mettre de pression, ne pas avoir honte de commencer au plus bas de l'échelle tout simplement, et être à l'aise avec ça, et après se fixer des objectifs qui sont atteignables et pas un objectif que tu vas mettre 1000 ans à atteindre, ou tu vas abandonner en cours de route et tout. Voilà, c'est, y a pas de petits objectifs en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de petits objectifs, et il faut être fier à chaque fois qu'on a atteint un objectif, quel que soit l'objectif qu'on atteint. Et je pense que c'est très important aussi d'être bien entouré, voilà, comme je le disais, de ne pas y aller seul, pourquoi pas, de changer d'accompagnant aussi, hein, pour les premiers 500 mètres avec ta mère, les deuxièmes avec ta sœur, enfin voilà, essayer d'intégrer aussi des gens de son entourage. C'est pas évident, franchement c'est pas évident, même moi au quotidien en tant que sportive de haut niveau dans un collectif sain, en n'ayant que ça à faire entre guillemets, c'est pas évident. Donc je sais que quand t'as une vie à organiser, quand t'as des enfants, quand t'as un travail, quand t'as les courses, quand t'as toute cette charge mentale et sociale, c'est pas évident, c'est dur. Et être ok avec ça, ne pas y aller tous les jours, c'est pas grave, mais commencer là où on veut commencer, et essayer de s'y tenir au maximum bien sûr, mais se fixer surtout des objectifs qui sont atteignables.
Toi, à titre personnel, comment tu te motives ?
Non, franchement, c'est pas facile des fois. Oh, franchement, il y a des fois. Des fois, je me motive pas. Hein. J'y vais parce que.
Mais t'as pas le choix. Ouais. C'est bien, mais non, mais c'est honnête de ta part de le dire.
Franchement, je vais pas. Non. Non, en toute honnêteté, il y a des fois où c'est. Ouah, des fois où j'ai pas envie, des fois où c'est dur. J'ai la flemme, quoi. Des fois, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Mais j'y vais de un parce que oui, j'ai je suis obligée, voilà, je suis obligée, mais parce que j'aime ça, et c'est pas évident de se le dire tous les jours. Des fois tu es dans ton lit, tu as pas envie d'entraînement, ouais j'aime ça, ouais mais ouais, et alors, ouais j'aime ça mais aujourd'hui j'ai pas envie, mais parce que voilà, j'ai des objectifs aussi, à atteindre, et surtout je suis pas seule. Donc, ok, t'as la flemme, mais les filles, elles y vont, donc toi,
elles
t'y vas.
Elles comptent sur toi aussi.
Voilà,
ouais.
Exactement. t'es pas seule, donc vas-y. Et puis franchement, dès que j'arrive sur le terrain, j'oublie que j'ai eu la flemme. Et puis c'est parti, quoi. Mais
25 essais, on le rappelle. Donc la flemme, ouais. Bon, ça va.
Mais, ouais, mais ça arrive. Mais franchement, ça arrive. Et ça arrive même aux meilleurs, même à ceux qui débutent. Enfin, ça arrive d'avoir la flemme. Et j'ai appris avec le temps que c'était pas grave. Que c'était pas grave parce que ça fait partie de la vie, parce qu'on a le droit d'avoir la flemme, parce qu'on a le droit de pas avoir envie. Mais voilà, c'est moi, j'ai des petits objectifs chaque jour. Et si mon objectif du jour, bah, c'est de me lever pour aller à l'entraînement, eh ben, ce sera un objectif de rempli. Et puis on verra le lendemain, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Mais à la fin de la journée, je me rappelle que j'aime ce que je fais, que j'ai de la chance de faire ce que je fais, surtout que j'ai choisi de faire ça, et qu'à la fin aussi, j'ai la chance d'avoir un très bel objectif. Donc, c'est plutôt motivant finalement, mais
c'est sûr.
Pas tous les jours.
Globalement, un peu, on arrive sur la fin malheureusement déjà, mais quelle est la plus belle chose finalement que le sport t'ait appris ?
Je pense que j'ai appris que j'étais capable de beaucoup finalement, là où je pensais avoir des limites et physiques et mentales. J'ai appris que le corps était quand même un outil incroyable et que le cerveau était aussi un moteur incroyable. Et ça, je suis assez fière de moi. Je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Je procrastine beaucoup dans la vie de tous les jours. Et même avant d'être pro, je procrastinais beaucoup. C'est horrible à dire.
J'adore, mais non, c'est génial. Ouais. Moi, je trouve que ça désacralise aussi la sportive de haut niveau, le sportif de haut niveau,
je
globalement.
Je procrastine toujours,
merci,
du coup,
Anne-Cécile.
Mais pas sur le sport. Mais tout ce que je peux remettre au lendemain, je le fais. Mais par contre, voilà, quand j'ai décidé quelque chose, j'y m'y tiens et je vais jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce que le sport m'a appris énormément, c'est que je peux me... Il y a des limites physiques qu'on croit impossibles à dépasser. Et en fait, c'est possible. Des limites mentales aussi, où tu te dis, mais non, là, j'en peux plus. Enfin, je peux pas. Et puis finalement, si, je peux, en fait. Je peux. Et le fait de se battre pour obtenir quelque chose qu'on veut réellement, ouais, je pense que c'est une des plus grandes valeurs que le sport m'a appris.
Et une dernière question. Le podcast s'appelle Championne du Monde. On a reçu beaucoup de championnes dans le podcast. Je suis ravie, du coup, d'ajouter ton nom. Quelle est ta définition d'une championne ?
Eh bien, alors, figure-toi qu'avant, il y a peu de temps, je n'aurais pas su, je pense, vraiment le définir. Pour moi, être une championne, c'était avoir des trophées, des médailles, avoir fait du haut niveau, etc. Et j'ai vu une vidéo d'un sportif qui m'a énormément inspirée quand j'étais jeune. J'avais des posters de lui dans ma chambre. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Enfin, vraiment, c'est Ladji Doucouré.
Ah, j'allais dire, qui est-ce ?
C'est Ladji Doucouré, je le dis. C'était une des stars de l'athlète français quand j'étais jeune. Donc, j'avais des posters de lui. Je l'ai rencontré par chance, j'ai eu la chance de le rencontrer du coup à son événement Golden Blocks. Et j'ai vu une vidéo de lui, justement, on lui a posé la même question. Et en fait, il a eu une réponse, j'ai plus ses termes exacts, mais il a eu une réponse qui m'a énormément touchée. Et je me suis dit, mais en fait, il a complètement raison. En fait, ce qu'il expliquait, j'essaie de pas trop déformer, mais c'est qu'une championne, c'est pas forcément quelqu'un qui a remporté des médailles. Donc il a complètement déconstruit l'image, l'idée en tout cas que j'avais d'une championne ou d'un champion, mais c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il aime. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui fait que gagner, mais c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il aime, quelqu'un qui se surpasse et qui est fier de lui. Et aller à l'entraînement 3 fois par semaine quand t'as toute une maison à gérer, un boulot, des enfants, t'es champion de ta vie. T'es pas forcément champion de champion du monde, champion de France, champion d'une discipline ou autre, t'es champion de ta vie. Et j'ai trouvé ces mots super forts et je partage complètement ça, parce qu'il n'y a pas de petit champion, t'es champion déjà de ta propre vie et après, c'est comme je le disais, je pense que c'est en fonction de tes objectifs. À chaque fois que t'as atteint un objectif, t'es champion et champion et champion. Et j'ai trouvé ça très beau comment il avait partagé et je suis complètement d'accord avec lui.
Je partage complètement ça et donc nous sommes, toutes les personnes présentes ici sont des champions et des championnes, donc applaudissons-nous. Ça, le podcast, il aime pas. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ce moment.
Merci.
Moi, je voulais savoir également si parmi les personnes présentes, il y avait des personnes qui avaient des questions à poser à Anne-Cécile, parce que moi, j'en pose depuis 45 minutes, mais vous avez aussi le droit d'en poser, donc n'hésitez pas si quelqu'un... Oui, un micro.
Comment avez-vous eu l'idée de débuter le rugby ?
Alors, moi, c'est à la fac que j'ai commencé le rugby. Donc, tu sais, tu as l'école primaire, le collège, le lycée, la fac. C'est encore en primaire. Donc, à la fac, quand j'avais 18 ans, moi, j'étais dans une spécialité qui s'appelle le STAPS. C'est une école de sport où tu peux faire différents métiers dans le sport. Et j'avais un professeur de rugby là-bas. Il m'a dit, toi, tu cours vite, il faut que tu fasses du rugby. Et moi, je lui ai dit non, je ne fais pas de rugby, je fais de l'athlétisme et je ne ferai pas autre chose. Et en fait, le rugby était obligatoire. Tu sais, à l'école, tu as des sports obligatoires. Et le rugby faisait partie du sport obligatoire. Et on a fait un espèce d'accord où moi, je galérais un petit peu à l'école. Et il m'a dit, bah, écoute, je te propose des cours particuliers. Par contre, tu viens faire du rugby à la fac avec moi, avec l'équipe de l'université. Et ben, fallait que je valide mon année. j'ai dit OK. Je lui ai dit oui pour qu'il m'aide à avoir des meilleures notes. Moi, j'allais faire du rugby avec lui. Et c'est comme ça. Et il m'a eu à l'usure, en fait. Vraiment. Le rugby s'est imposé à moi.
Il a eu une écreux. Il a eu une écreux.
Oui. Le rugby s'est un petit peu imposé à moi. Et je le remercie aujourd'hui.
C'est à cette personne.
Exactement.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ouais.
Oui. Il y a les Jeux Olympiques là, au mois de juillet. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quel est l'objectif? Parce que je sais que vous avez été médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques.
Argent,
pardon. Quel est l'objectif du coup pour cette année?
La réponse classique, hein, ça va être sûrement pas de participer seulement. Non, mais il y a une belle revanche à prendre cette année. Donc forcément, nous, on ne veut pas repartir sans la médaille d'or, hein, c'est l'objectif principal. On se rend compte, nous, à chaque étape, que ce n'est pas si évident que ça d'avoir la médaille d'or. Le niveau s'élève d'année en année, donc voilà, ça va être l'objectif principal, hein, tout simplement, de revenir avec la plus belle des médailles à la maison. Et les Jeux, c'est plus que le graal de chaque sportif, surtout à la maison, parce que j'ai eu la chance de participer à ceux de Tokyo, mais avec merci, avec le Covid, ça a été déjà un peu particulier, il n'y avait pas de public. Là, on aura la chance de pouvoir faire ça devant un public français, devant nos proches et devant des gens qu'on a la chance de croiser au quotidien. J'espère vous y voir. Mais c'est vrai, bah, super. Mais franchement, c'est cool. Trop contente. Mais ouais, ça va être une sacrée pression, mais un sacré challenge surtout.
Au courant apparemment que vous y alliez, hein, parce qu'elle a eu l'air surprise. Une autre question.
Du coup, est-ce que vous vous projetez à long terme pouvoir switcher encore de sport, ou est-ce que là le rugby c'est genre
une troisième carrière,
votre dernier mot?
J'aurais bien voulu tenter le hand ou le volley, mais je crois que c'est un peu tard là, ça commence à faire vraiment juste non, j'espère finir sur le rugby, mais après pas une carrière pro après, bon, sûrement pas d'ailleurs, mais changer de sport après, pourquoi pas découvrir d'autres disciplines, ouais, mais finir sur le rugby à haut niveau, ouais.
Bonsoir. Du coup, merci beaucoup pour tout le partage. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que si vos parents n'étaient pas des athlètes, parce que du coup, j'ai googlé un peu, j'ai vu. D'ailleurs, votre maman est camerounaise, je suis camerounaise aussi en face. Mais du coup, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas commencé du coup très tôt par l'impulsion de vos parents, est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez peut-être fait du sport, mais est-ce que vous seriez à ce niveau-là sans ça? Et pour un jeune lambda qui, voilà, n'a pas du tout un entourage, qui est dans le sport, qui ne s'y connaît pas et qui n'a pas du coup des personnes comme ça pour le pousser, qu'est-ce que vous lui diriez?
C'est vrai que j'avoue que je pourrais même pas répondre à la première partie de la question parce que j'ai jamais connu ça. Donc je saurais pas du tout y répondre. Franchement, aucune idée. Je sais pas, parce que vraiment mes parents, mon père, il a été à l'initiative de tout ça, à l'initiative de ma carrière. Donc sans eux, je sais pas du tout. Franchement, j'arrive même pas à imaginer. Je sais pas du tout. Et pour un jeune, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais c'est surtout, c'est avant tout en tout cas trouver un sport dans lequel il se plaît. et ne pas se mettre de pression de résultat. Ça viendra naturellement et c'est en fonction des ambitions, et en fonction du sport. Il y a plus ou moins de moyens d'atteindre le haut niveau. Il y a notamment des centres de formation. Il y a j'ai plus le mot, mais au lycée, tu peux faire. Les sports-études, merci. Voilà, tu as des sports-études aussi. Donc, en fonction de la discipline, il y a différents moyens d'atteindre le haut niveau. Ça dépendra vraiment de la jeune personne. Voilà, exactement. Mais avant tout, aimer ce qu'on fait, parce que le sport de haut niveau, c'est très, très exigeant, très sollicitant et très prenant surtout. C'est hyper important d'aimer ce qu'on fait, sinon c'est subir sa carrière, ça peut être très long ou très court. Oui.
Une dernière question.
Bonsoir. Bon, ça va être à peu près l'équivalent, mais un peu plus dans ce qui est un peu la tendance qu'on voit souvent dans l'actualité, la place du sport un peu dans le quotidien des jeunes. Donc ça rejoint un peu la question. C'est ce qu'aujourd'hui on donne les moyens en fait aux jeunes à pouvoir déjà aimer un sport, parce que déjà il faut le trouver, parce qu'il y a un éventail de sports qui est énorme. Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, ou par rapport au voyage que vous faites dans le monde entier, vous voyez en fait une avancée en France de la place du sport dans les activités au travers des JO, au travers des événements qu'il peut y avoir, ou au contraire, ça stagne et on arrive à émerger des champions du quotidien, parce que pas que, mais voilà, c'était voir un petit peu votre positionnement à tout ça.
En France, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on s'active autour d'événements sportifs. Donc, chaque fois qu'il va y avoir un grand événement sportif en France, il va y avoir toute une série d'actions autour de ça, d'interventions auprès des jeunes, et c'est déjà sympa. Mais j'ai pas l'impression que les jeunes, en tout cas dans le circuit scolaire où c'est plus facile de toucher un maximum de jeunes, j'ai pas l'impression que tous les moyens soient mis en place pour pouvoir proposer aux jeunes un maximum de sport. Et comme vous le disiez, du coup, j'ai la chance de voyager. Et dans différentes nations, nous, on voit à la plage, nous, on lézarde hein, sur la plage. Après l'entraînement, on bronze parce qu'on récupère complètement.
Comment ça ?
Oui, de temps en temps, ça arrive. Et on est surprise parce que dans certains pays, les jeunes ne font pas de château de sable, ils sont avec un ballon de foot, avec un ballon de rugby, ils jouent en famille, entre les pauses déj, ils vont faire du sport, enfin, ils sont très actifs et en échangeant avec les locaux à chaque déplacement, ils sont tous très actifs et en dehors des périodes scolaires, ou en tout cas ils ont un emploi du temps qui leur permet de pouvoir faire différentes activités sportives. Et ouais, on se rend compte qu'il y a un sacré décalage avec la France, ouais.
Merci beaucoup. Tout le monde a posé sa question. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Anne-Cécile.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour cet échange. Merci aux personnes qui sont venues aujourd'hui. On peut l'applaudir. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite, une belle fin de saison et bien évidemment, en apothéose, les Jeux et une belle médaille d'or. Pour les personnes qui ne sont pas présentes ce soir, le podcast est à retrouver dès demain sur toutes les plateformes de streaming et sur Championne du Monde. Bonne continuation Anne-Cécile et encore merci à toi.
Merci à toi pour l'invitation, je suis contente qu'on ait enfin pu trouver un
Mais
moment.
Oui
et merci à tous pour votre attention et vos questions et merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.